vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Emmanuel Kessler, auteur de l'essai Bergson, notre contemporain, qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Bonsoir Emmanuel Kessler.
Bonsoir Sandrine.
Alors quelques mots de présentation tout d'abord, vous pouvez m'interrompre si vous voulez ajouter des choses. Vous êtes normalien en philosophie, journaliste politique et économique, ancien président de la chaîne publique Sénat et actuellement vous dirigez la communication d'une grande institution publique. Le goût pour la philosophie vous a rattrapé, à moins qu'il ne vous ait jamais quitté, puisque votre actualité est la parution de cet essai « Bergson, notre contemporain », édition de l'Observatoire, qui rappelle aux mémoires oublieuses les grandes lignes de la vie et de l'œuvre du plus grand philosophe de son temps. Et l'on découvre en vous lisant que la pensée de Bergson n'est pas un vestige du passé, mais une philosophie lumineuse qui mérite d'être redécouverte de nos jours. À cheval sur deux siècles, le 19e et le 20e, comme vous le rappelez, Henri Bergson a été la première star philosophique de l'époque contemporaine, prix Nobel de littérature en 1927. Il a reçu tous les honneurs de la République. Lévinas rappelait au moment de sa mort en 1941 qu'au banquet éternel de Platon, de Descartes, de Spinoza, de Kant, il s'asseyait en pair. Une citation que vous rappelez d'ailleurs avant l'incipit de votre essai. Considéré comme le plus grand philosophe de son temps, ce que pensait notamment son élève Charles Péguy, il a eu une influence considérable sur plusieurs générations, dont des figures de l'école française de pensée juive comme Val, Jean Kelevitch ou Eliane Amado Lévy-Valency. De son vivant, il a attiré les foules, notamment au Collège de France, où son cours était le rendez-vous à la mode. On a du mal à s'imaginer ça, mais c'était un cours à guichet fermé. Il a été le penseur optimiste du sens de l'intuition, du temps, du rire, de la mémoire. Il a proposé de nouveaux éclairages sur la conscience, la morale, la religion ou l'art. Bergson nous laisse une œuvre d'une actualité troublante sur laquelle il serait grand temps de nous pencher. Et pourtant, Bergson a sombré dans l'oubli. Alors la première question qui s'impose, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée de replacer dans l'actualité littéraire le philosophe Henri Bergson ?
Bon, d'abord, merci de votre introduction qui dit déjà tout. Donc voilà, vous avez, je crois, parfaitement résumé ce qui constitue pour moi l'intérêt de ce retour à Bergson, mais je dirais pas un retour, parce que le temps avance toujours chez Bergson, de cette présence continue de Bergson et du bergsonisme que j'ai simplement voulu mettre en lumière, sur laquelle j'ai voulu mettre le projecteur dans les temps que nous vivons. Alors, moi, Bergson ne m'a jamais quitté, en réalité, pour vous dire les choses. Et c'est vrai que j'ai fait des études de philosophie avec l'idée déjà de vouloir devenir journaliste, mais dans ces études, Bergson a été pour moi une révélation, le philosophe qui m'a le plus marqué, d'abord par son style, parce qu'il y a une musicalité de la phrase bergsonienne, vous en retrouverez des traces peut-être encore plus marquées chez Jean Kelevitch, après qui insistera sur la correspondance entre le langage et la musique, mais ça vient de Bergson. Il y a une fluidité qui correspond à sa conception. C'est pas simplement une esthétique, parce qu'on ferait fausse route si on le pensait, mais sa conception, ça correspond à sa conception de la vie et du temps. Ça, c'est sûr. Et puis, je trouve qu'il y a une originalité de sa pensée et ce qui m'a attiré, et ça fait presque le pont, pardon, de vous dire des choses un petit peu personnelles entre mes études et ce qui a été ma carrière, c'est que Bergson est un penseur de la nouveauté. Voilà. C'est quelqu'un qui aime accueillir la nouveauté, la comprendre. Non que la nouveauté soit toujours quelque chose de formidable, mais fondamentalement, et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu remettre un peu le projecteur sur lui maintenant, fondamentalement, à une époque où aujourd'hui certains sont tentés par le « c'était mieux avant », c'est toujours quelqu'un qui va affronter le nouveau. Et le nouveau est la caractéristique du temps qui passe. Et le nouveau est la caractéristique de la vie. Et ça, je trouve que c'est un message très fort, moi qui m'a toujours accompagné. Alors, il m'a fallu du temps pour écrire ce livre. Mais au fond, Bergson, je l'avais en moi. Et je l'ai encore en moi tous les jours, parce qu'il ne se passe pas un jour où je n'entends pas un élément de l'actualité, un débat. En ce moment, on a le débat sur la fin de vie. Je pense à Bergson, qui est un philosophe de la vie. Je pense qu'il éclaire énormément de sujets. Il a pu se tromper, on peut débattre, etc. Mais oui, c'est parce qu'il m'accompagne en permanence que j'ai voulu aussi le rendre présent à nouveau, le plus possible pour le public.
Alors, pourquoi est-ce qu'il a été oublié ? Est-ce que vous avez des éléments de réponse à cette interrogation ?
Oui, j'ai des éléments de réponse. Je pense, si vous voulez, que sa gloire, il y a un livre qui s'appelle La gloire de Bergson, très beau livre de François Azouvi, a été tellement fort dans la première moitié du XXe siècle que la rupture de la Seconde Guerre mondiale, qui est une rupture historique, qui est aussi une rupture intellectuelle, a en quelque sorte clos la page du bergsonisme, qui était interprété aussi comme une pensée fondamentalement optimiste, mais pas forcément capable de penser le mal. À mon avis, on a tort de penser cela. Je crois que la présence du mal existe chez Bergson, mais ça a pu être perçu comme ça. Et puis, je crois aussi qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une nouvelle figure philosophique qui est apparue, qui est celle de Sartre. Et le siècle de Sartre a en quelque sorte effacé le siècle de Bergson. Enfin, après cette césure dans le XXe siècle, le paysage intellectuel se reconstitue autour d'idéologies très fortes. Or, Bergson est l'adversaire des idéologies. C'est une pensée ouverte, ce n'est pas une pensée de système qui enferme. Au fond, ce que redoute Bergson, c'est l'idée qu'on puisse avoir un cadre préétabli à l'intérieur duquel on essaie de faire rentrer le réel. Et que l'on parle du socialisme, du communisme ou du capitalisme, au fond, c'est ça. Alors que Bergson, lui, est un observateur du réel qui essaie d'en comprendre le sens. Le paradoxe, d'ailleurs, c'est que sa pensée est totalement cohérente. La fin fait comprendre le début, mais la fin n'est pas déductible du début. Et donc, je crois qu'on est rentré dans la deuxième moitié du XXe siècle dans la pensée de système clos. Et Bergson avait dit « je n'ai pas de système ». Et c'est pourquoi, fondamentalement, on peut penser au structuralisme aussi, il a été rejeté. Par ailleurs, c'est une pensée du sujet, c'est une pensée de la liberté. Et il y a eu de grandes idéologies qui ont éliminé le sujet, justement, dans cette deuxième partie du XXe siècle.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, nous sommes mûrs pour pouvoir la redécouvrir, cette pensée ? Et notamment, quand on va essayer de piocher quelques thèmes que vous abordez dans votre ouvrage, et celui de la conscience écologique. On dit que son œuvre majeure, alors que d'autres sont vraiment intéressantes, chacun y pioche un petit peu ce qu'il a envie, c'est l'évolution créatrice qui paraît en 1907 et qui développe l'idée d'une création permanente de nouveautés par la nature. Finalement, c'est une idée très actuelle. On a l'impression qu'il est presque un précurseur de cette conscience idéologique.
Oui, moi je pense de cette conscience écologique. Oui, je pense, si vous voulez, que effectivement, aujourd'hui, il est temps de se repencher sur cette œuvre parce que elle éclaire vraiment, elle nous donne des outils, des indications pour penser la période. Bien sûr que les choses ont changé, etc. Mais, et notamment sur cette thématique de l'écologie, de la préservation de l'environnement. Et vous avez raison, la première grande œuvre majeure de Bergson, c'est l'évolution créatrice, qui est une pensée de la vie comme une sorte de courant continu de vie qui traverse la matière, qui peut lutter contre la matière, mais qui triomphe, au point d'ailleurs que dans l'évolution créatrice, il va même jusqu'à évoquer une certaine forme d'immortalité. En tout cas, si c'est pas l'immortalité de l'individu, c'est l'immortalité de la vie comme principe d'existence qui avance dans le temps. Et donc, l'attention que l'on doit porter à la vie, c'est-à-dire aussi à la nature, à son prochain, aussi aux animaux, c'est quelque chose qui est extrêmement fort et qui fait écho à la pensée écologique et qui va retrouver une expression peut-être plus directe dans la dernière œuvre de Bergson, qui est une œuvre que j'ai d'ailleurs, que je connaissais moins, que j'ai découverte en lisant ce livre, qui est, j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui c'est la plus forte pour penser notre époque, que sont les deux sources de la morale et de la religion. On reviendra peut-être sur la distinction entre le clos et l'ouvert, mais il dit à un moment donné, on pourrait dire de la société ouverte que c'est la société du respect de l'homme, mais aussi des animaux, mais aussi de la nature. Et il nous met en garde contre l'exploitation frénétique, c'est le mot qu'il emploie, il parle de la frénésie des ressources naturelles qui se retournent. Il ne condamne jamais le progrès, mais qui finit par se retourner contre ce mouvement de vie dans lequel nous nous sommes développés.
Alors cette inspiration religieuse, au-delà de cet ouvrage que vous citez, on peut le retrouver aussi dans son idée de déterminisme qui n'existe pas. Et souvent, c'est chez Bergson, on a l'impression d'une sorte finalement d'opposition à la lecture des textes, mais en même temps, il s'y retrouve. Tout à l'heure, vous parliez du mal, par exemple. Eh bien finalement, dans la philosophie bergsonienne, on retrouve des thématiques de cette école française de pensée juive, le dépassement du mal vers la recherche du bien, avec cet adage biblique et talmudique, et tu choisiras la vie, qui était la référence de Eliane Amado Lévy-Valency ou de Lévinas ou de d'autres élèves de ces grands penseurs. Et donc cette idée du déterminisme, que quoi qu'il arrive, rien ne se passe comme prévu, il le formulait lui-même de cette manière, l'avenir est réellement ouvert, imprévisible, indéterminé. Finalement, c'est une idée qui fait du bien, cette impression que chaque individu a l'opportunité d'agir en toute liberté.
Absolument, je crois que c'est vraiment le cœur de la pensée de Bergson qui traverse toute son œuvre, parce qu'encore une fois, c'est pas un système, mais il y a une cohérence fascinante dans ses différents livres. C'est que c'est un philosophe, c'est aussi pour ça que je m'y attache particulièrement, c'est un philosophe de la liberté. C'est-à-dire que, bien sûr, nous avons des raisons qui nous font agir, bien sûr, il y a des déterminations à notre existence, mais il restera toujours cette capacité d'action qui ne se laisse pas enfermer, qui ne se laisse pas prévoir, qui est ce que Bergson appelle d'une très belle expression la création de soi par soi. C'est-à-dire que non seulement nous sommes un être qui a été créé, mais nous sommes un être créateur à l'image de ce mouvement de la vie qu'on peut considérer comme étant le divin, mais qu'on peut considérer aussi comme étant l'humain capable de construire quelque chose. Et ça, c'est fondamental chez Bergson, c'est-à-dire que il y a toujours une place pour la liberté. Et je pense, vous avez raison, et on en reviendra peut-être sur les rapports complexes de Bergson au judaïsme, il ne faut pas chercher à récupérer Bergson comme un juif, il est juif, mais comme un juif engagé qu'il n'a surtout pas été. Mais je pense que cette pensée de la vie est une trace fondamentalement juive. On a dit d'ailleurs que c'est cet élan vital dont parle Bergson, avec qui est une espèce de poussée intérieure qui est à l'œuvre dans la nature vivante et presque peut-être on peut se demander si elle n'est pas à l'œuvre dans la nature que l'on croit inerte et qui le serait moins. Certains y voient des traces du message racidique. Donc je ne sais pas, mais je pense oui qu'il y a un souffle juif qui traverse l'œuvre bergsonienne, n'en déplaise la distance qu'a pris Bergson lui-même par rapport au judaïsme.
Et qu'il dépasse toujours ce souffle juif. Alors il est considéré comme le philosophe de la durée. Donc ça, c'est une question aussi, la question du temps est très judéo-chrétienne. La vérité chez Bergson se cache derrière les choses qui changent. Il considère la durée comme un état de changement perpétuel, un passage et non comme une succession d'états différents. Est-ce que finalement, c'est pas ça l'idée révolutionnaire de la philosophie bergsonienne ?
Ben vous avez raison, c'est l'idée révolutionnaire, c'est l'idée qu'il fait connaître, c'est l'idée qui... C'est ce que j'ai appelé, pour employer une expression simple, un peu le chamboule-tou philosophique qui arrive avec le premier grand livre de Bergson. Sangor, qui aimait beaucoup Bergson, parlera de la révolution de 1889, comme il y a eu dans le monde intellectuel, comme il y a eu une révolution historique en 1789. C'est le livre d'un tout jeune agrégé de philosophie qui fait sa thèse et qui s'appelle « L'essai sur les données immédiates de la conscience » où effectivement il va mettre à jour cette notion de durée et finalement être en rupture, alors en maîtrise et en connaissance remarquable de tout le corpus philosophique et de tous les auteurs qui l'ont précédé, mais en rupture aussi parce que, en rupture avec Kant, qui pense qu'il y a de l'inconnaissable, qu'il y a des choses en soi qui échapperaient au temps, et en rupture avec Platon, qui situerait la vérité dans une sorte d'éternité, et au fond, Bergson va nous mettre dans la situation de comprendre que la vérité, le vrai, c'est la vie, c'est le changement, que l'existence, c'est le changement et que c'est là qu'il faut aller chercher la vérité des êtres et des choses et pas dans une espèce d'éternité qui échapperait à l'historicité. Voilà, c'est dans la contingence qu'il faut aller chercher ce qui est vraiment, mais ce qui est. Et au fond, j'y pense à l'instant, je crois qu'en hébreu, il n'y a pas de verbe être au présent.
Non.
Voilà. Et donc, c'est toujours chez Bergson La vérité est dans, là aussi, je vais, dans va, vie et devient, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais dans je suis, elle est dans je deviens. Et ça, je trouve que c'est une idée très forte parce que c'est ce que nous expérimentons. Au fond, que sommes-nous ? On n'est pas ce que nous sommes étant, on n'est pas l'enfant, on n'est pas l'adulte, mais on est l'être qui passe de l'enfant à l'adulte.
Et en vous écoutant, on pense à un autre concept du judaïsme, la teshuva. Cette réparation, ce changement, à partir d'un état A, on devient un état B, et tout est toujours possible chez, dans le judaïsme, de ce mouvement, cette avancée. Alors,
quand bien même on vit des difficultés, des obstacles, quand bien même on est confronté au mal, on retrouve cette idée de liberté qui nous donne toujours la possibilité d'agir et de construire quelque chose. Il n'y a pas d'obstacle qu'une volonté suffisamment déterminée ne puisse surmonter, parce que derrière cette pensée qui peut apparaître très théorique, il y a aussi une philosophie de l'action, et on y fera peut-être allusion tout à l'heure, il y a aussi une philosophie politique.
Alors, je voulais aussi que vous disiez un mot du style Bergson. Hein. C'est quelqu'un qui réussit tout. il est enseignant très jeune. Et puis, il avait un style très particulier. Il avait une mise toujours soignée. Vous l'avez dit, une musicalité dans sa phrase, dans son phrasé, une précision horlogère, en même temps un charme qui le rendait irrésistible. Est-ce que c'est ça qui lui a valu qu'on vienne de partout, femmes, hommes, des gens pointus, moins pointus, écouter parler.
Oui, il y a eu donc, vous y faisiez allusion tout à l'heure, cette période qui va de 1900 à 1914, où l'événement à Paris, comme un concert d'un chanteur
c'est
aujourd'hui, c'est d'aller au cours de Bergson au Collège de France. Il faut bien voir qu'on se disputait aux portes de l'amphithéâtre où le vendredi et le samedi matin, il faisait son cours. Les femmes du monde faisaient réserver par leurs valets leur place, venaient une heure à l'avance, ce qui fait que le professeur qui était là comprenait pas ce qui se passait, parce qu'il voyait arriver des gens qui applaudissaient quand il avait terminé son cours, pour être sûr d'avoir sa place au cours de Bergson, parce que il exerçait sur son public, dans sa façon de parler. Peggy parle d'une sorte de ténuité audacieuse, ou quelque chose comme ça, une espèce de fascination. On a pas d'archives de la voix de Bergson, on en a une très très courte qui est dans les archives de Radio France, mais
oui,
voilà,
il parle de l'art.
Il parle de l'art, justement.
Et
c'est un très très beau texte qui illustre bien d'ailleurs quel est l'objet de l'art, etc. Bon, et donc à la fois, je dirais, sur la manière dont il pouvait captiver son auditeur et l'émouvoir, parce que c'est quelqu'un qui s'adresse à l'intelligence, mais aussi à l'intuition, donc aussi qui, par l'émotion, mais sans jamais céder à la facilité et développer des idées révolutionnaires à une époque scientiste où on pense que tout se résume dans la science géométrique, dans la science de l'espace, alors que lui va nous montrer qu'il y a le temps qui est une dimension majeure du devenir et que la science ne peut pas l'enfermer complètement. Tout ça crée cette espèce de fascination qui fait qu'effectivement, au cours de Bergson, on se précipite.
Et est-ce qu'on peut dire qu'il avait cette facilité de rendre des choses un peu ardues, très accessibles ? Ce qui est l'inverse de beaucoup de philosophes.
Oui, et moi, c'est aussi... Voilà, il n'est pas d'idée philosophique aussi profonde et aussi subtile soit-elle qui ne puisse... s'exprimer dans la langue de tout le monde. Je donne à peu près la citation Barca. Et ça, je trouve que c'est une très belle ambition, qui est d'ailleurs, je crois, assez dans la ligne de la philosophie française. De ce point de vue, on peut rattacher Bergson à Descartes, qui est un des grands maîtres de Bergson. C'est pas du tout la même chose dans la philosophie allemande. Moi, c'est aussi ce qui me séduit dans cette philosophie, cette volonté de parler à tous. Il considère que les femmes... et c'est assez révolutionnaire pour l'époque, sont autant capables d'accès au savoir, à les philosophies, et doivent suivre les mêmes études que les hommes. Je ne veux pas faire du féminisme à rebours, d'autant que Bergson dénonce ce qu'on appelle l'illusion rétrospective. Mais c'est quand même une notation intéressante. Et puis, oui, effectivement, il y a cette volonté de rendre accessible le propos. Volonté trompeuse, parce qu'en même temps, quand on lit Bergson, et vous le savez, il y a aussi une forme de... Il y a une simplicité, mais de fausse simplicité, au sens où... quand on se penche sur... c'est un auteur qui est complexe en même temps pour essayer d'en comprendre tous les ressorts. C'est ce qui est intéressant chez Bergson, c'est qu'on a toujours des dualités, des tensions, des complexités derrière la simplicité, mais il y a toujours une approche possible du bergsonisme. Je conseille d'ailleurs de lire les livres de Bergson qui sont des recueils de conférences, qui sont plus accessibles, parce que, oui, il s'adresse à toutes et à tous.
Et c'est pour ça aussi qu'on peut vous remercier, parce que votre ouvrage livre les clés pour entrer de manière assez simple dans les grandes thématiques de la pensée bergsonienne.
Oui, parce que je ne prétends pas être un philosophe, au sens où il y a des gens très bien comme, qui sont beaucoup plus calés que moi, comme Frédéric Worms, qui depuis 30 ans, 40 ans étudie Bergson, qui l'ont ont d'ailleurs réédité ses œuvres en facilitant sa lecture. Je m'en suis servi. Moi, je suis un journaliste comme vous, donc je suis un passeur. Et c'est ça que j'ai voulu. Et je pense que ça, c'est être vraiment fidèle à l'esprit du bergsonisme que d'essayer d'amener une pensée à s'adresser et à être comprise par le plus grand nombre, mais sans la trahir. C'était peut-être toute la difficulté de l'exercice.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de la Fréquence juive, en compagnie d'Emmanuel Kessler, qui nous parle de son livre « Bergson, notre contemporain », qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. Alors, Bergson est issu d'une famille juive polonaise par son père, dont le nom d'origine était Bergson, et d'une famille juive anglaise par sa mère. Et Bergson a une relation qui interroge avec le judaïsme. J'en résume les points essentiels. Alors, même si on a l'impression, et ça, je pense que c'est la lecture de chacun, que son œuvre a pour point de départ une lecture juive des textes de la tradition judéo-chrétienne, il y a, par exemple, cette neutralité au moment de l'affaire Dreyfus qui peut déranger. Il y a, au moment où il rédige son testament, une phrase qui heurte et qui, sans doute, évoque son mépris pour ses coreligionnaires juifs franchement débarqués d'Europe centrale orientale, qui seraient à la fois les victimes et l'origine du sentiment qui ferait naître ce sentiment antisémite. Sa tentation de la conversion au christianisme, alors qu'il ne franchira pas le pas. Hein. Alors ça, c'est quelque chose qui plaît bien, parce qu'il se sent solidaire des mesures prises à l'encontre des juifs par le gouvernement de Vichy. Et puis, au moment de son enterrement, la demande de recourir à un prêtre, si jamais le prêtre ne veut pas se déplacer, il accepterait qu'un rabbin arrive. Et puis, quand on voit sa tombe, la grosse croix qui figure dessus, alors qu'il ne s'est jamais converti apparemment, parce qu'il y a des polémiques autour de ça.
Oui, mais ça, je peux attester vraiment là-dessus, et Bergson l'a dit lui-même, il ne s'est pas converti. Voilà. Il était au seuil de la conversion, mais il n'a pas franchi le pas.
Il ne l'a pas fait. Et alors, donc, tous ces éléments feront dire à Eliane Amado-Olivier Valenci, qui était pourtant aficionados de son œuvre, je la cite, « Nous ne voulons plus, n'est-ce pas, de ces méconnaissances de soi, de ces reniements qui évoquent Bergson et Simone Weil, avec un W, hein, bien sûr. Pourquoi Bergson a-t-il ignoré qu'il était un philosophe juif, et son message aurait peut-être eu plus de poids, plus de valeur messianique s'il l'avait su ?» C'est ce qu'elle écrit à son amie André Neher quand elle travaille sur sa thèse doctorat. Et donc, est-ce que vous avez réussi à déchiffrer cette ambiguïté par rapport au judaïsme? Est-ce que finalement c'est le fait qu'il soit, on a l'impression qu'il représente l'image même de l'israélite, très patriote, très attaché à la nation française et en même temps avec une sorte de rejet de la religion de ses pères? Est-ce que c'est ça chez Bergson?
Ben d'abord, je crois que tout personnage a ses complexités, tout personnage a ses contradictions, tout personnage a ses faiblesses, parce que, effectivement, dans ce très beau testament de 1937, où Bergson dit « Je me serais converti si je n'avais vu monter cette formidable vague d'antisémitisme, donc il est lucide, qui va submerger l'Europe, et j'ai voulu rester parmi ceux qui seront demain des persécutés », ce qui est une belle phrase émouvante. Et c'est vrai, donc il n'a pas voulu se convertir dans ce contexte historique. Et en même temps, vous l'avez souligné, il a cette phrase où il laisse entendre que les Juifs venus d'Europe centrale ou certains de mes coreligionnaires seraient responsables de l'antisémitisme, ce qui était évidemment insupportable. Et surtout, totalement contradictoire avec le génie intellectuel et la lucidité qui est celle de Bergson. Donc oui, il y a des contradictions, oui, personne n'est d'un seul bloc, etc. Bon, je pense que c'est important de le dire, et ça fait aussi partie de la richesse d'un homme qui par ailleurs disait qu'il voulait qu'on lise son œuvre pour elle-même et non pas par rapport à sa vie. Il faut avoir aussi l'honnêteté de le dire. Ensuite, je crois que Bergson est effectivement un juif, un israélite français de son temps, et élevé avec la conscience que ses parents étaient juifs, que sa mère était assez religieuse, mais avec une volonté d'assimilation absolument farouche. Et pour lui, ce qui compte, c'est la culture française, ce sont les auteurs français. Il y a quelque chose de beau, moi, je trouve, dans cette volonté d'intégration et d'assimilation, mais qui va jusqu'à être frénétique.
Oui, là aussi, jusqu'à cette phrase, par exemple, que vous citez dans une correspondance avec Gilbert Mer. Je n'ai jamais eu l'enthousiasme dreyfusien. Dans l'affaire Dreyfus, j'ai donné tort à tout le monde.
Ouais, c'est incroyable. Ouais. Pour un pour un génie de ne pas avoir vu ce qui se passait dans l'affaire Dreyfus, pour un intellectuel de ce niveau comme Bergson, alors que même d'ailleurs le terme intellectuel est né des positions dreyfusardes prises par un certain nombre de grandes personnalités pendant l'affaire Dreyfus. Donc oui, il y a eu un aveuglement qui est lié à cette volonté d'être français par toutes les fibres de son être, et parce qu'il considère que la France véhicule des valeurs de civilisation, de savoir qui dépasse tout. Et puis, il y a le rapprochement avec la théologie catholique. Et je crois qu'au fond, Bergson se situe dans une vision du judaïsme qui est celle du catholicisme de l'époque. Voilà. Il a dans son entourage beaucoup de personnalités du monde catholique qui l'influencent énormément. Et il a une lecture de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui consiste à dire que le catholicisme constitue le dépassement du judaïsme. Et donc, dans son dernier livre, Les deux sources de la morale et de la religion, où il fait la distinction entre ce qu'il appelle la religion statique, c'est-à-dire close, qui enferme un peuple sur lui-même ou une nation sur elle-même, et qui l'a conduit d'ailleurs à se battre avec les autres, et à se créer une identité comme ça de tribale, d'enfermement. Il y voit encore des traces dans le judaïsme, alors que, dit-il, le dépassement de cette religion statique par une religion dynamique, même s'il y a eu un peu de prophétisme juif vers l'ouverture, il est pleinement réalisé par le christianisme et singulièrement par le catholicisme. Et de ce point de vue, Bergson est l'homme de son époque, mais je trouve que le symbole du fait qu'il demeure aussi par fidélité à ses parents dans la religion de ses ancêtres ne doit pas non plus être négligé.
Alors, je vais citer aussi une phrase que vous mentionnez dans votre ouvrage, qu'il écrit le 4 avril 1938. « Je me demande si je puis quitter ce judaïsme dans lequel j'ai été élevé, auquel adhéraient mes parents, qui étaient éminemment dignes de respect. N'est-il pas plus religieux, plus vraiment religieux d'y rester ? Que ma conversion publique, et je n'aimerais pas la garder secrète, puisse être exploitée à des fins apologétiques, peu m'importe, mais il me serait très pénible qu'elle puisse donner un argument aux persécuteurs de ma race. » Il faut dire que Bergson était très critiqué par ses co-religionnaires, et pourtant, il a inspiré, notamment dans les années d'après-guerre, un grand nombre de philosophes nés juifs. Comment vous l'expliquez ?
C'est vrai qu'il y a eu un grand malentendu du fait de tout ça avec la communauté juive. En 1900, il est élu à l'Académie française en 1914 et il est reçu en 1918. C'est quand même le premier juif élu à l'Académie française. Il y avait eu d'autres candidats avant qui avaient été rejetés pour des raisons religieuses.
Alors qui donne lieu aussi à des monceaux d'insultes
antisémites. Il y a des articles antisémites absolument terribles, notamment dans l'Action française, oui, sous la plume de Léon Daudet, enfin voilà, disant
et
que l'Académie s'est
déshonorée. Et on a l'impression que ça ne l'effleure même pas.
Il est noté notamment dans un journal, c'est l'Univers israélite, en tout cas un journal de juifs de l'époque, une réception, au moment de sa réception, une déception, parce que dans son discours de réception et dans celui qu'il accueille aussi, il n'y a pas une seule phrase sur ses racines, sur sa famille, etc. Donc, oui, il s'est tenu à distance, il y a eu une espèce même d'hostilité de la communauté. Comment lui, qui est le philosophe juif. Il y a deux personnalités juives qui sont les plus célèbres au monde. C'est Einstein et Bergson. C'est d'ailleurs curieux parce qu'ils vont s'affronter, je le raconte dans le livre, oui, le 6 avril 1922 dans le débat sur le temps. Mm-hmm. Voilà. Et il y en a un qui est un juif assumé, qui se réclame, qui sera même sioniste, Albert Einstein, et l'autre pour qui le judaïsme semble n'être rien du tout. Donc, mais après-guerre...
Et il faut dire aussi que quand on relit cette sorte de disputatio, on se met plus facilement dans le camp de Bergson que dans le camp d'Einstein quand même.
Oui, ça dépend si on le lit comme scientifique ou comme philosophe. Moi, c'est une disputatio qui a nuit plutôt à Bergson, parce que finalement, la théorie de la relativité s'est imposée comme une vision du monde physique plus forte que la vision de la durée bergsonienne. Et on a cru que Bergson avait dit des bêtises sur Einstein, ce qui est probablement possible d'un point de vue scientifique, mais ce qui ne réduit pas tout à fait la portée, et à mon avis pas du tout, la portée du discours de Bergson sur le temps. Mais donc, avant-guerre, si vous voulez, la relation est très tendue avec la communauté juive. Après-guerre, il y a un certain nombre de figures intellectuelles, et je pense à son principal disciple, qui est Jean Galevitch, dont on a encore peu cité le nom, mais qui est celui qui restera le plus fidèle à l'esprit de Bergson avec une pensée différente, qui au fond, comme je le disais tout à l'heure, est tout à fait, je disais, en ligne avec ce que voulait Bergson, c'est-à-dire qui va considérer l'œuvre bergsonienne et qui va ajouter à sa thèse de 1930 sur Bergson, qu'a lu Bergson, pour laquelle il lui a écrit, Bergson l'a félicité pour sa thèse, un chapitre en 1959 pour le centenaire de la naissance de Bergson, où il y a un grand colloque à Paris, auquel participent d'ailleurs aussi Eliane Amadou, Lévi Valenzi, mais il y a une grande conférence, magnifique d'ailleurs, on peut l'écouter parce qu'elle est, ça a été enregistré, donc vous pouvez l'écouter sur Internet. Il y a une grande conférence de Jean Kelevitch sur Bergson, et il rajoute aussi un chapitre à son livre, à sa thèse Henri Bergson, sur Bergson et le judaïsme. Et donc, sans se référer à tout ce contexte qui, au fond, reste daté, celui d'une vie, mais... En allant chercher, comme on le faisait tout à l'heure, dans les textes, dans les concepts de Bergson, il va nous expliquer que, au fond, Bergson, il y a chez Bergson des traces fortes de ce prophétisme juif et dans cet appel à la vie et dans cet appel à l'ouverture. Et je voudrais ajouter une chose, c'est que j'ai parlé tout à l'heure de religion statique et de religion dynamique et qu'il y avait une lecture historique, au fond, qui consistait à dire que le statique ou le clos précède l'ouvert, mais on peut aussi lire ce dernier chapitre des deux sources, enfin, les deux sources de la morale et de la religion. C'est dans le premier qui parle, je crois, de la religion close et de la religion ouverte, statique et dynamique, comme non pas de façon chronologique, mais si on se dit qu'au fond, dans chaque religion, il y a de la clôture pour souder des individus entre eux. Et il y a aussi peut-être une façon de concevoir la religion vers l'ouverture à autrui dans une forme de message universel de « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Qui que soit ce prochain, il y a aussi de l'ouverture dans chacune des religions. Et à ce moment-là, je crois que cette dualité, pour ne pas dire cette dichotomie entre clôture et ouverture, devient extrêmement... intéressante pour penser aujourd'hui le débat religieux.
Donc Bergson est bien notre contemporain. J'avais un grand nombre d'autres questions à vous poser, mais le temps avance très vite.
Hélas,
il y a une habitude dans cette émission, une question classique, mais néanmoins difficile pour conclure. Si en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de lire votre essai, qu'est-ce que vous leur diriez ?
Bon, écoutez, je leur dirais... aller retrouver la trace d'une vie qu'on a un peu oubliée mais qui est passionnante parce qu'elle mêle la pensée et l'action. Et Bergson, qui a été un immense philosophe, a aussi été un homme qui a joué un rôle diplomatique important pour convaincre les États-Unis d'entrer dans la Première Guerre mondiale. Et donc, c'est jamais quelqu'un qui vit dans sa bulle, Bergson. C'est un philosophe engagé, mais d'un engagement réel. Jean Kelevitch fera la différence avec Sartre, pas un engagement d'estrade, etc. Non, il est allé aux États-Unis, il a traversé l'Atlantique en bateau pour aller voir Wilson.
Aux États-Unis d'entrer en guerre aux côtés des Alliés.
Et puis, la deuxième chose, c'est que je raconte... les circonstances de cette magnifique conférence, que d'abord j'invite quand même à lire le texte de Bergson, qui s'appelle « Le possible et le réel », où il explique cette espèce de paradoxe qui est qu'on croit souvent qu'il y a une armoire au possible qui enferme les choses et qu'ensuite il y aura certains possibles qui se réalisent. Et comme on l'a dit, puisque c'est un penseur de la liberté, que c'est le grand ennemi du déterminisme, en réalité c'est pas vrai. On vit des choses et on s'aperçoit après coup qu'elles ont été possibles. Et derrière ça... on arrive à trouver un autre sens du possible. C'est-à-dire que le possible, c'est pas ce qui est derrière nous, c'est pas ce qui est avant, c'est ce qui est devant. Et à partir du moment où c'est devant, alors tout devient possible, pour paraphraser un slogan politique, au sens où la vie est ouverte. Et c'est pour ça que j'espère que pouvoir un peu intéresser avec ce livre, c'est que vous allez comprendre ce que veut dire, ce que peut vouloir dire dans une période difficile, dans une période redoutable même à travers les défis politiques, géopolitiques, écologiques et démocratiques. On en a peu parlé, mais Bergson est un grand penseur de la démocratie, qui est que malgré tous ces obstacles, il reste une place pour une action qui construit quelque chose et qui va dans le sens de la vie. Et ça, c'est le message de Bergson, c'est ce que j'ai essayé de faire passer dans ce livre. Et je crois que c'est aussi le message un petit peu, je ne connais pas grand-chose, mais c'est un peu le message du judaïsme.
En tout cas, vous l'aurez compris, hein, c'est un livre que l'on recommande pour la modernité des thématiques de la philosophie de Bergson et puis aussi pour le destin presque romanesque du personnage à découvrir. Merci infiniment, Emmanuel Klessler, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Et merci à vous pour cette lecture particulièrement aiguë, attentive et précise de, de Bergson, je vois qu'on partage une passion commune.
Exactement. Alors, on rappelle cette actualité, la parution de l'essai Bergson, notre contemporain, aux éditions de l'Observatoire. J'ajoute que tout le monde peut s'y retrouver. Ce n'est pas un ouvrage d'érudit. Alors, il y a des concepts compliqués, encore une fois, qui sont à la portée de tous. Et puis, une écriture fine et ciselée qui ne doit pas effrayer. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, j'espère à très bientôt.
À bientôt.